They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达木加，正忙着
忙着忙着忙
着忙着忙着
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Rocchini, mais aussi Clément Salézard, Xavier Martinet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Dophar Guéride. On poursuit notre série sur les villes qui se meurent. Nous parlions lundi des villes qui se meurent à cause des guerres, mardi à cause du déclin économique, hier des catastrophes industrielles, naturelles. Eh bien, les vieilles villes se meurent aussi sous le coup bien des pelleteuses qui érigent ici un gratte-ciel, ici un centre commercial, là un stade qui efface des quartiers entiers à Londres, à Pékin, à Rio pour accueillir par exemple les Jeux Olympiques. Quand la ville tue la ville, c'est le sujet de notre émission ce matin.
Les autorités ont décidé de détruire la maison familiale où habitaient 12 personnes pour y construire une route afin de fluidifier la circulation pendant les Jeux Olympiques.
Voilà, c'est ici que se trouvait ma maison. Ma maison, hein, 300 mètres carrés et 500 mètres carrés de terrain.
Une vue imprenable sur un lac et sur le futur parc des athlètes. Tous les habitants de la favela Villa Autodromo sont menacés d'expropriation par la mairie de Rio.
Ils n'ont pas le droit de voler ce que nous avons construit à la sueur de notre front. Ce qui les intéresse, c'est l'immobilier, la spéculation immobilière.
De son côté, la mairie de Rio assure que tout a été prévu.
La mairie de Rio a acheté à 500 mètres de là un terrain. On va y construire des habitations de très bonne qualité et les personnes ne sortiront de là qu'après beaucoup de dialogues et de discussions.
Ça, c'est le décompte pour les travaux de transformation du quartier de Tianmen. Tout ça, c'est pour les Jeux Olympiques. Mais on comprend pas ce qu'ils sont en train de faire. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils nous obligent à partir de nos maisons.
Quand la vieille ville s'efface, c'est notre sujet ce matin. Quand la rénovation urbaine bouleverse les modes de vie, bouleverse les habitats des populations à l'occasion d'événements sportifs ou dans le but aussi de densifier toujours plus l'espace urbain, au prix bien souvent du bien-être des habitants. La ville de demain sera-t-elle constituée d'un cœur historique, immuable et déserté, de quartiers résidentiels, voire carrément des gated communities, ces grands immeubles privés, sécurisés, qui sont autant de villes dans la ville. Comment garder une ville composite, plurielle, véritablement vivante, ou au fond, comment rénover l'espace urbain sans perdre les éléments qui permettent de faire ville. Justement, ce sont les questions qu'on va se poser ce matin. On parlera de cette tendance à muséifier les centres-villes un peu partout dans le monde, d'Amsterdam à Québec en passant par Dubrovnik. Va-t-on définitivement reléguer les villes du passé au musée du patrimoine historique? N'est-il pas possible, au contraire, d'intégrer les villes, les centres et les quartiers anciens dans la vie quotidienne de l'ère électronique, de les rendre à des usages qui ne soient pas ceux de l'industrie culturelle? On tentera de répondre à ces questions avec Maria Gravari-Barbas tout à l'heure. Mais pour parler donc de cette vieille ville qui s'efface, nous avons invité ce matin en plateau deux personnes. D'abord Thierry Paco, bonjour.
Bonjour.
Thierry Paco qu'on connaît bien ici, hein, puisque vous avez été ancien producteur d'émissions, notamment Permis de construire, hein, c'était bien ça. Et puis il y avait aussi Côté Ville.
Absolument.
Hein, tout à fait. Vous êtes philosophe, vous êtes urbaniste, vous êtes professeur à l'Institut d'urbanisme de Paris. Et puis à vos côtés, Jean-Pierre Augustin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là également ce matin avec nous. Vous êtes géographe, vous êtes professeur à l'université de Bordeaux-Montaigne et on a de la chance parce que vous êtes de passage à Paris, Jean-Pierre Augustin. Vous connaissez très bien, vous, toutes ces questions fondées de grands événements sportifs qui changent la ville. Parce qu'à chaque fois, en gros, qu'on a des Jeux Olympiques, voire une Coupe du Monde, on a des villes hautes qui font l'objet de grandes rénovations. On rase, on démolit, on construit des infrastructures, derrière dont parfois la vie s'arrête en même temps que la fin de l'événement. On a vu ça notamment du côté d'Athènes. Bon, parfois c'est plutôt une réussite, parfois c'est plus difficile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont toujours des moments particulièrement importants. D'abord parce que c'est un moment où on transforme la ville, où on se projette dans l'avenir. D'ailleurs, tout le monde aussi regarde, tout le monde a les yeux braqués sur ce nouveau visage. C'est donc évidemment un enjeu de taille que de réussir cette transformation, cette transmutation presque, Jean-Pierre Augustin.
Oui, c'est vrai que ces événements, donc les Jeux Olympiques par exemple, mais il y a aussi donc les d'autres grandes manifestations qui peuvent servir. Alors, les villes olympiques sont intéressantes parce qu'elles donnent l'occasion de voir des transformations rapides, puisque lorsque la ville est choisie, elle a 7 années pour se préparer, se transformer, pour accueillir des Jeux qui sont évidemment l'événement mondial par excellence.
D'ailleurs, petite parenthèse, mais quand elle est choisie, vous avez raison, il y a avant la compétition officielle, il y a la compétition entre les villes elles-mêmes.
Exactement, et alors de plus en plus. Hein, au total, il y a 160 villes qui ont souhaité être candidates. Il y en a eu 28 qui ont accueilli les Jeux, donc on voit l'augmentation d'ailleurs de la demande. Hein. Il y a vraiment actuellement une course au statut de ville olympique. Alors, effectivement, une ville olympique, elle doit détruire. Elle doit détruire des quartiers pour restaurer, rénover. Donc ça pose toujours de sérieux problèmes. Et ce qui était dit tout à l'heure sur les favelas à Rio est un très bon exemple. Moi, je pense que la question s'est posée au niveau des villes olympiques à Montréal. Bon, il y a eu des transformations urbaines dans les villes olympiques avant cette date, mais les JO de Montréal, en 1976, ont été très discutés. Surtout, on a garder l'idée que le stade avait été une sorte de catastrophe économique parce qu'il a coûté très cher et on ne sait pas quoi en faire, donc ça fait partie de ces éléphants blancs. Mais on a oublié ce que le maire Drapeau, qui était donc le maire emblématique de cette ville dans les années 70, voulait faire de Montréal la capitale politique et économique du Canada. Et donc, il avait lancé toute une série d'opérations de manière un peu autoritaire, hein, autocratique. Et je pense que il a évidemment ça, cette position a entraîné des révoltes, des mouvements sociaux assez importants, mais au total, avec un peu de recul, on peut considérer que c'est à partir de ces années 70 que la ville s'est vraiment transformée avec le métro, avec les gratte-ciels du centre-ville, qu'on peut discuter, et Thierry Pacaud nous en dira un mot tout à l'heure, mais la ville a changé de visage. Il a aussi réussi, grâce aux Jeux Olympiques, à rééquilibrer la ville qui était déséquilibré parce que l'Ouest, plutôt anglophone, était survalorisé et l'Est, plutôt francophone, dévalorisé. Et donc, ces Jeux ont été l'occasion de rééquilibrer cette ville. Les mouvements sociaux...
Rééquilibrer cette ville, pardon de vous couper, mais c'est aussi dans un objectif qui est quand même assez clair, c'est celui d'accueillir les touristes du monde. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est de transformer une ville, une cité, en ville-monde, quelque part.
Oui, tout à fait, puisque je n'oublie pas le titre de votre émission, Culture Monde. Effectivement, à l'époque, les flux touristiques étaient moins importants qu'ils ne sont maintenant, mais ça restait toujours vrai. Dans le cas de Montréal, pour répondre à votre remarque, on peut dire que le projet urbain s'est fait plutôt a posteriori. C'est a posteriori que l'on utilise ce quartier de l'Est de Montréal, où est installé donc le stade olympique, pour en faire un lieu touristico-sportif, on peut dire comme ça, très, très valorisé, sans avoir toujours trouvé les marques adéquates. Mais de mon point de vue, et il y a des discussions encore, puisque beaucoup de mes collègues considèrent que c'est le mauvais exemple de ville olympique. Je ne partage pas totalement cette idée en fonction de ce que je vous disais, à savoir donc quand même d'une ouverture de Montréal sur la modernité. Mais l'exemple plus intéressant peut-être, là où je crois que les projets de ville ont accompagné véritablement les villes olympiques, c'est Barcelone. Barcelone, donc, c'est quelque chose...
Pour vous, Barcelone, c'est vraiment l'exemple, au fond, de la transformation de la ville réussie.
Je pense, et ouais. Si j'en crois d'ailleurs la plupart des travaux, des articles qui sont présentés autour, qui ont été produits autour de ces restaurations, c'est 1992. On a toujours des contextes politiques intéressants, parce que 1992, Barcelone, c'est aussi un changement. C'est l'arrivée quelques années avant donc d'une majorité de gauche, c'est la fin de l'époque un peu dure politiquement parlant. Donc là, il y a toute une ébullition, une effervescence qui va faire que les architectes, les urbanistes vont repenser la ville dans une perspective non pas seulement de Jeux olympiques, mais de véritables projets urbains avec toute une restructuration. On revoit les travaux de Cerdà, qui avait construit au siècle précédent la ville avec un système de damiers très original. Il y a donc tout un travail qui est fait. Alors, évidemment, on détruit un quartier. on va détruire le quartier, les friches industrielles qui sont en bord de mer pour en faire un village olympique. On va détruire des centaines de maisons, mais on va construire 2000 logements. On va accueillir sur cette destruction de logements 30% de logements sociaux. Il y aura un effort intéressant. Mmh. Alors, au niveau symbolique, ce qui est amusant, c'est que je crois que c'est pour la première fois peut-être que ça a été fait, c'est devenu un peu la mode après, on garde des traces du passé. C'est-à-dire qu'on n'efface pas tout d'un quartier. On ne détruit pas un quartier complètement.
Ou alors on efface le passé, on détruit, quitte à finalement reconstruire par-dessus, mais en réintégrant ces traces du passé. Mais Thierry Pacaud, je voudrais votre avis là-dessus, en gros, sur voilà, cette idée que ces événements sportifs, c'est un enjeu urbanistique majeur, c'est ce qui permet au fond de transformer une ville et d'en faire une ville-monde, d'utiliser cette formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais peut-être d'ailleurs qu'on comprend du coup parfois les hésitations des uns et des autres, parce que vous avez raison de dire qu'il y a de plus en plus de candidats. Et en même temps, il y a aussi des villes qui sont réticentes. Regardez par exemple notre président de la République, François Hollande, qui, il y a quelques jours, annonce fièrement qu'il faut que Paris soit candidate pour les Jeux de 2024. Et notre maire de Paris qui se rétracte. Attention, réfléchissons bien avant quand même, hein, parce qu'évidemment, c'est un coût. En gros, celui qui gagne à chaque fois, c'est celui qui met le plus d'argent sur la table. Thierry Pacaud.
Mais celui qui gagne, ce n'est pas forcément celui qui réside là. C'est aussi les grandes chaînes de télévision, c'est aussi les grandes fédérations sportives, etc. Mais ce que disait Jean-Pierre et Augustin est tout à fait intéressant pour Montréal, mais sauf qu'il faut remonter un peu en avant, c'est-à-dire voir que 1967, c'est l'exposition universelle de Montréal, et les Jeux Olympiques viennent un peu dans le prolongement d'une exposition universelle qui a été très controversée, non seulement dans la qualité des bâtiments qui ont été construits, mais aussi dans l'organisation territoriale. Alors, c'est très difficile de mesurer l'impact pour les habitants, c'est ça qui nous intéresse évidemment, de l'après-jeu ou de l'après-événement, bien souvent, on a une enveloppe globale comme ça. Mais si je vous disais que, vraisemblablement, l'exposition universelle a mieux réussi dans l'après, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait construit va servir aux habitants et améliorer leurs conditions de vie, c'est à Hanovre. Et elle est passée quasi inaperçue en France parce que c'est pas un pays tropical, c'est pas ensoleillé, c'est pas très beau,
pas très exotique.
C'est pas exotique, donc on n'y va pas. Et pourtant là, alors là, d'un point de vue environnemental, ça a été un lieu d'expérimentation assez extraordinaire. Au niveau du sport, Atlanta, par exemple, a pensé à un grand stade surdimensionné. Parce qu'il fallait accueillir énormément de spectateurs de ce genre de compétition. Mais c'était un grand stade qui pouvait se rétrécir pour devenir le stade d'une grande ville. Parce qu'Atlanta est une grande ville américaine.
Oui, une grande ville, mais en même temps, pas sûr que ce soit une ville-monde. En tout cas, ce n'est pas comparable avec, par exemple, Pékin. On disait, au fond, ça permet de transformer une ville, j'allais dire, classique. Ce n'est pas évidemment une ville classique, Pékin, mais en ville-monde. En tout cas, 2008, c'est exactement ça. L'idée qu'il y a derrière les responsables politiques chinois, c'est de faire de ce Pékin une ville-monde. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les grandes infrastructures elles sont confiées à des gens qui viennent du monde entier, à des Suisses, à des Allemands, l'aéroport c'est un Britannique, etc. Il y a aussi cette idée de rassembler le monde autour d'un projet commun.
Oui, c'est aussi une image de marque, c'est-à-dire de dire on va être une ville vitrine, tous les médias vont nous regarder, on nous présente comme un pays totalitaire avec un parti communiste chinois, etc. On va montrer qu'au contraire, on est très ouvert à d'autres choses, mais en même temps, on ne va pas dire à quel point, par exemple, le nid d'hirondelle, ce grand stade de Pékin construit par Herzog et de Meuron,
est
totalement énergivore. C'est une absurdité totale. C'est-à-dire que ça ne peut être possible que parce que c'était une dictature. Sinon, on n'aurait pas pu, enfin, j'imagine, raisonnablement permettre ce truc qui est d'une sidérurgie folle.
Pardonnez-moi, mais on avait fait exactement les mêmes commentaires sur le stade d'Athènes en 2004.
Oui, absolument, bien sûr.
Oui, alors on a quelques exemples comme
Jean-Pierre
ça.
Augustin.
C'est vrai que l'exemple d'Atlanta est intéressant, qui a été donné, parce que c'est un stade démontable, en partie démontable. Donc là, on a une réflexion sur ce qu'on appelle les grands éléphants blancs, là, ce qui va rester après ce qu'on appelle aussi le complexe de Cendrillon. Un petit peu, une fois que la fête est finie, bon, qu'est-ce qui reste ? Il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, pour Pékin, alors effectivement, il y a ces cinq grandes infrastructures, hein, dont le stade olympique, la piscine,
le cube
d'eau, voilà.
Confie un Australien, là, pour le
absolument.
Coup. Ah, normal. Hein.
Les deux tours de la communication, l'aéroport, et puis l'opéra, qui est quand même un Français qui va obtenir le contrat. Donc, ce que vous disiez sur la mise en scène donc, de ces grands opérateurs internationaux est intéressante. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on a aussi beaucoup détruit à Pékin. On a détruit parce qu'on a détruit des quartiers où il y avait du lien social, où il y avait beaucoup de choses.
Et ça, on a confié ça à des architectes chinois.
Exactement. Ça, c'est intéressant à noter. Il y a eu une volonté. Alors, je ne dis pas que ça a été réussi, parce que mais c'est pareil quand on parle...
Ça a été raté non, si ça n'a pas été réussi, ça a été raté.
C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que on peut
pas avoir réussi puisqu'on a viré les plus pauvres.
Absolument.
Oui, c'est une réussite extraordinaire. Au contraire,
on ne peut pas avoir une vision trop simple, blanc ou noir. Mm-hmm. Je veux dire que dans les transformations, j'allais évoquer l'osmanisation. Bon, on sait. Hein, Tout ce qui a été dit hein, sur cet échec, enfin, en particulier pour certaines populations qui ont été exclues. Mais aussi sur une réussite d'une ville plus ouverte.
Elles ont été exclues, et vous avez raison de dire qu'on ne peut pas dire que c'est blanc ou noir, parce qu'elles ont été exclues, mais elles vivaient aussi dans des conditions...
Absolument.
Voilà,
des conditions, alors on dira un mot près sur les favelas, mais il y a eu à Pékin, on estime à 300 000 personnes qui ont été déplacées, qui ont été délogées, dont les maisons ont été rasées. Bon, c'est vrai que ça pose de sérieux problèmes, c'est des choix politiques. Alors, qu'est-ce qui résulte de ces destructions? Qu'est-ce qui remplace ces destructions? Ben évidemment, on est dans une logique de gentrification, si on veut. C'est une logique... Alors, même si on met des logements sociaux, je l'évoquais pour Barcelone. Alors, à Barcelone, j'avais pas terminé, mais je voulais dire, à Barcelone, on a gardé dans les friches de ce quartier littoral qui a été refait, rasé et refait, on a gardé les symboles des tours, des usines. Je trouve que c'est symboliquement, c'est intéressant comme résultat. Bon, c'est pas suffisant, évidemment. Ça va pas rassurer tout ceux qui se plaignent et avec raison
parfois.
Oui, mais
une cheminée qui fume plus, oui, n'a pas grand sens.
Elle n'a pas du sens, mais elle est quand même un signe de ce qui s'est passé. D'une certaine manière, je préfère qu'il y ait quand même une trace de ce passé plutôt que faire table rase hein, du passé, comme d'autres politiques.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous dire, reprenons l'exemple de Pékin, parce qu'à Pékin, c'est vrai que c'était assez extraordinaire, cette chose-là. C'est les fameux houtons, maisons en quartier, comme ça, avec organisé autour de ces cours carrés, avec ces maisons de maîtres absolument prodigieuses. Alors, les gens qui vivaient là, c'était des gens très pauvres, dans des conditions très difficiles. Il y a des quartiers où on a rasé et on a reconstruit sur le même modèle. Alors, parfois, bon, je me demande ce qu'en penserait Thierry Pacaud, parce que, par exemple, on entendait tout à l'heure, dans l'introduction de l'émission, ce fameux quartier de Tiananmen, qui est en fait un lieu où on avait justement ce type de maison. On a tout rasé, et puis on a reconstruit, au fond, cette sorte de Chine un peu mythique, une sorte de parc à thème mélangé avec un centre commercial où vous pouvez acheter à peu près tout et n'importe quoi. Bon, la trace du passé, elle est là. En même temps, qu'en reste-t-il vraiment ? Thierry Pacaud.
À partir du moment où ce n'est plus les mêmes habitants, ça ne peut plus être la même culture urbaine locale. Alors, vu de loin, évidemment, ou vu de haut par un technocrate chinois, par exemple, c'est un habitat misérable avec des gens pauvres. Mais vu à l'intérieur de la famille qui résidait là, c'était non seulement leur propre histoire, leurs souvenirs, mais aussi le fait d'être très très bien situé par rapport au centre de la ville et donc de pouvoir avoir accès à des boulots, à des petits travaux, etc. Donc, tout d'un coup, on va les expropriés, on va évidemment leur faire croire qu'on va s'occuper d'eux et qu'ils auront un logement beaucoup plus confortable avec des sanitaires, etc. Mais sauf que ils n'auront pas les moyens pour venir au centre-ville régulièrement parce que c'est trop coûteux. Alors, la ville, c'est une alchimie très compliquée. Et ce qui domine, c'est l'aspect composite. À partir du moment où on va zoner, je garde le terme exprès qui est horrible, on va zoner artificiellement en disant bah, là, on va avoir un quartier de gens simples, là, on va avoir un quartier parc à thème qui reprend l'image du passé, etc. Je pense que tout ça est brouillé. D'autant plus qu'en chinois, il n'y a pas de terme pour dire patrimoine, comme dans de très nombreuses langues. Donc c'est aussi une invention occidentale. L'invention occidentale des Jeux Olympiques, des grands événements, fait croire qu'il y a une corrélation entre cet énorme investissement qui est destructeur, qui est prédateur, et puis des retombées économiques, culturelles, sociales. Bon, j'en doute énormément. J'en doute énormément. Aujourd'hui, quand on va à Barcelone, dans les ruelles, il y a des pochoirs « touristes égale terroristes ». Parce qu'à un moment donné, il y en a ras-le-bol d'avoir une masse incroyable de gens qui viennent sans prendre en considération justement ce que dit Jean-Pierre, c'est-à-dire la marque de quelque chose d'autre. Parce qu'on ne sait plus ça. La tour Eiffel, ce n'est pas 1789 qui est honoré, la Tour Eiffel, ce n'est plus la sidérurgie française de Schneid, etc. La Tour Eiffel, c'est une icône vide de sang. Nous sommes dans un monde, c'est ça ma grande crainte, qui désymbolise fondamentalement ces grandes manifestations. C'est pour ça que nous avons une uniformisation. Ce sont les mêmes aérogares, ce sont les mêmes chaînes d'hôtels, ce sont les mêmes journalistes qui se retrouvent tous les quatre ans. Donc c'est ça que moi qui m'inquiète énormément.
France Culture, Culture Monde,
Florian Delorme.
Quand la vieille ville s'efface, c'est notre sujet ce matin avec Thierry Pacaud et avec Jean-Pierre Augustin. On a parlé de Pékin, Jean-Pierre Augustin, parlons de Rio, parce que l'actualité, oui. C'est Rio 2016 qui va accueillir maintenant les Jeux Olympiques dans deux ans. Alors on se souvient des grandes manifestations qu'il y a eu juste avant la Coupe du Monde, beaucoup de Brésiliens qui descendent dans la rue pour dénoncer le coût des infrastructures, pour dire que finalement tout ça ne leur sert pas à eux et qu'on ferait bien d'investir dans d'autres choses. Bref, quel est le projet aujourd'hui, Jean-Pierre Augustin, urbanistique qu'on trouve à travers l'organisation de grands événements sportifs, des grands événements sportifs brésiliens, c'est-à-dire à la fois la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, parce que finalement, on peut mettre ça un peu dans le même paquet. Jean-Pierre Augustin.
Oui, alors, Rio est très intéressant. D'abord, parce que tout n'est pas joué encore, bien que, à mon avis, les grandes
idées... On doit avoir un plan en tête,
voilà,
quand même.
Les grandes idées sont en place. Mais ce qu'on peut noter, c'est que au niveau des villes olympiques, la nouveauté, c'est quand même que les pays du Sud, les pays émergents, sont maintenant pris en compte dans les villes. Alors Pékin, d'une certaine manière, Rio encore plus. Il faut attendre, voir si le processus va se développer ou pas. Alors Rio, c'est intéressant parce que c'est une ville fragmentée au possible. Je ne dis pas la ville, c'est Villemonde, une des villes les plus fragmentées, les favelas. 40%, on estime à 40% de logements, les logements qui sont de type irrégulier. On estime à 750 favelas, des grandes, des petites. On a, et à côté de ça, évidemment, les quartiers chics. Donc on a cette opposition entre quartiers chics et quartiers chocs qui pose de vrais problèmes. Alors, évidemment, le projet autour de la ville olympique ne va pas transformer considérablement la situation. Et les rénovations, les requalifications, les revitalisations qui sont en cours ne vont toucher que certains secteurs. Alors, les études que l'on a pour le moment, les observations et le plan. Le plan, il s'est fait, comme la plupart des cas, c'était le cas à Barcelone notamment, autour de quatre quartiers vont être surtout touchés. Bon, autour du stade Maracana, d'une part, le quartier Barra, qui va recevoir donc l'ensemble des manifestations. Copacabana, au niveau de la plage, pour tout ce qui est
compétition balnéaire.
Et puis Deodoro, où il y aura les disciplines nouvelles. Alors, ce ne sont que certains quartiers. On va avoir là des effets de...
C'est-à-dire qu'il y a peut-être une forme de concentration, là,
oui,
pour le coup, des sites
sûr.
Olympiques qu'il n'y avait pas sur les autres projets olympiques, non ?
Si, il y a toujours eu concentration, parce qu'il faut... Mais, il n'empêche qu'entre ces lieux-là, la ville olympique, c'est aussi une occasion de favoriser les flux de population, les mobilités, bon, les transports en commun notamment. Bon, il y a toute une série d'éléments qui sont à prendre en compte. On parlait de Pékin. Pékin, le métro de Pékin, je crois que c'est 400 stations de métro qui sont prévues. Enfin bref, revenons pas sur Pékin, restons sur
Rio. Vous avez raison de le dire, ça va être un véritable défi pour Rio, parce que pour qui est allé à Rio, parfois le temps de déplacement d'un point A et un point B est considérable. Et d'autant que vous pouvez, très souvent, la seule possibilité, c'est finalement le taxi, et il y a des embouteillages terribles. Ça va être un vrai défi, cette question du transport pour Rio.
Oui, oui, tout à fait. Alors,
qu'est-ce qu'ils ont pensé là-dessus ? Quelle est la stratégie ?
La stratégie, c'est quand même de rendre cette ville plus fluide. Alors, le risque que Thierry évoquait de faire des villes touristiques, il n'est pas tant. Il peut avoir des effets plutôt positifs. Certaines favelas vont s'ouvrir un petit peu, vont rentrer un peu dans le système, de n'être plus complètement fermées, mais comme elles sont sécurisées avec ces fameuses UPP, les unités de police pacificatrices qui sont mises en place pour permettre aux touristes de rentrer sans danger dans certaines favelas. Mais en gros, les débats sur le fond sont les suivants. Ce que disent les mouvements contestataires, c'est que tout l'argent qui est mis pour les infrastructures olympiques serait mieux pour l'éducation, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour la vie sociale, pour des équipements de proximité. C'est clair. C'est clair. Sauf que l'occasion des Jeux olympiques va accélérer, de manière un peu artificielle, je le reconnais, mais va accélérer des phénomènes qui auraient été beaucoup plus longs à se mettre en œuvre. Ça, je trouve que c'est
même
intéressant.
Même plus accéléré, même quasiment déclenché, parce qu'il y a une question qu'on n'a pas évoquée, on parlait des favelas, mais depuis quelques années maintenant, depuis novembre 2008 exactement, parce que la première favela à avoir été pacifiée, je mets des guillemets, c'est Santa Marta et c'est novembre 2008, c'est ces fameuses unités de police pacificatrices qui en gros arrivent dans les favelas. Alors on prévient avant d'arriver, on dit la police va arriver dès demain, donc les trafiquants ont tout le temps pour enlever tout ce qui est armes, tout ce qui est drogue. D'ailleurs on pourrait poser la question de finalement savoir si la violence elle est réellement éradiquée ou si elle est simplement déplacée.
Déplacée, oui.
Mais bon, ça c'est une autre question. Mais en tout cas très clairement, c'est parce que Rio accueille les Jeux Olympiques qu'on a lancé ce grand mouvement-là. Ça, c'est une certitude.
Oui, ça, c'est certain. Il y a une accélération, il y a un calendrier.
C'est même une condition, je pense.
C'est une condition, effectivement.
Du comité olympique. Mmh. On vient chez vous que si votre ville...
Si vous êtes en capacité de sécuriser.
Voilà. Mais il faut poser quand même une autre question, si je peux me permettre. C'est celle de l'intérêt de ce type de sport, de ce type de compétition, de ce type de les Jeux olympiques. Enfin, c'est quand même une manière de discipliner le territoire comme on discipline les corps. Et moi, ça m'inquiète beaucoup. Je me souviens très bien du grand helléniste Jean-Pierre Vernant, à qui on avait posé la question au moment des Jeux olympiques d'Athènes. C'était quoi les Jeux olympiques d'Olympe, c'est-à-dire les premiers, il y a excessivement longtemps. Mmh. Et il expliquait qu'il n'y avait pas de compétition. On ne les chronométrait pas. Celui qui arrivait le premier était le premier. Et c'était terminé. Alors moi, je pense que l'idéologie des Jeux olympiques est pour moi tout à fait symbolique de la manière dont on veut organiser la compétition entre les individus et entre les villes et entre les pays. Et donc, du coup, c'est ça que moi, je remets en cause. Je ne crois pas du tout dans la fraternisation, la communion des peuples, dans la compétition. Tout ça, c'est du discours. Alors, je préférerais, effectivement, comme les mouvements contestataires de Rio, qu'on mette un peu plus d'argent pour qu'il y ait des petits stades de quartier, que les gens puissent se faire du sport à leur échelle et qu'ils n'entrent pas dans cette espèce de farandole internationale de laquelle on est exclu.
C'est d'autant plus vrai ce que vous dites, Thierry Paco, quand on regarde la carte des favelas qui sont en voie de pacification, et je remets une fois encore des grosses guillemets, c'est d'abord les quartiers qui sont autour effectivement des futurs sites, et là où on n'aura pas les moyens, faute d'argent, de policiers, etc., on va carrément construire des murs pour éviter que, eh bien, il y ait trop d'échanges entre ces favelas, ces quartiers pauvres et les sites,
oui,
les sites olympiques.
Le défi est le suivant. Le défi, c'est est-ce que la fragmentation qui était là avant les Jeux olympiques va être accélérée ou pas ? Est-ce qu'effectivement on va créer, grâce à ces implantations nouvelles, ces transformations, une ville qui soit un peu plus ouverte ou pas. Mais bien sûr qu'on est d'accord sur l'idéologie du sport, mais il ne faut pas oublier...
Et le dopage, Jean-Pierre. C'est-à-dire que d'un côté, on va maîtriser les petits dealers locaux, mais de l'autre côté, on va nous montrer des sportifs qui sont, à mon avis, totalement dopés.
Ouais, mais le débat, si tu veux, n'est pas sur le sport opium du peuple et tout et tout. On a des débats extrêmement importants. Moi, je ne suis pas un défenseur de l'idée olympique. Ce que je constate seulement en deux mots, c'est que, de fait, il y a, à partir du sport, une sorte de discipline, tu employais le mot tout à l'heure, discipline des lieux. Il y a des temps nouveaux qui sont organisés. Il y a des liens aussi qui se font grâce au sport. Bref, il y a un débat qui est ouvert. Moi, je sors de l'idée noir-blanc, comme j'évoquais tout à l'heure, par rapport à cette question.
Alors, il n'y a évidemment pas seulement les grands événements sportifs qui transforment la ville. Vous entendez, Thierry Paco, cette ambiance d'hypermarché. Vous avez écrit un livre qui va être bientôt publié le 4 février, c'est très précis, à la découverte. Désastre urbain quand la ville devient invivable. Et vous expliquez dans votre...
Non, quand les villes meurent.
Quand les villes meurent, pardon. Quand les villes meurent, voilà. Et vous expliquez dans l'introduction de votre livre que ces hypermarchés, justement, mais aussi d'autres ensembles, alors justement les grands ensembles, les gratte-ciel, les gated communities, les grands projets urbains, eh bien, toutes ces choses-là, ce sont des désastres urbains. Qu'est-ce que vous entendez par là ? L'hypermarché, c'est un désastre urbain ?
Oui, parce que l'hypermarché est l'installation des commerces en dehors des rues des centres-villes à la périphérie dans des espèces d'ensembles complètement dédié à la consommation, avec des vastes parkings, dont j'en rappelle historique avec Victor Gruen aux États-Unis. Et donc, on est...
Oui,
on
mais d'ailleurs, vous faites petite parenthèse, mais vous racontez, c'est assez drôle, parce que vous dites que ça fait des années que vous n'allez plus dans les hypermarchés, mais que là, vous avez voulu y aller pour voir comment ça s'organisait, et vous avez eu la mauvaise idée d'y aller en vélo, et quand on y va en vélo, c'est très compliqué, parce que pour accrocher son vélo, c'est pas fait pour... Hein, on attend les automobilistes, mais on n'attend pas les cyclistes.
Exactement, oui, parce qu'on attend de remplir un coffre, on n'attend pas de remplir une sacoche.
Avec un vélo, on consomme pas assez. Hein.
Donc c'est vrai que pour moi, l'hypermarché, le centre commercial, c'est une non-ville. C'est pour ça que j'appelle ça un désastre urbain, c'est parce que, alors ça peut être commode, on peut trouver des tas d'arguments, etc., bon, qui ne sont pas les miens. Je pense que la ville est un lieu d'échange, de tous les échanges, pas seulement marchands, des échanges de conversations, de rencontres, etc., et également de non-rencontres. Mais il n'y a rien de plus triste qu'une ville sans commerce, qu'une ville sans boutique, d'une ville sans vitrine. Et c'est, on va vers ça quand, à un moment donné, on déplace les activités, les multiples et pluriels d'un lieu pour les mettre dans quelque chose qui serait spécialisé.
Attendez, je vous coupe parce que vous dites que c'est un lieu d'échange. Normalement, le commerce, il n'y a pas mieux pour faire de l'échange.
Évidemment.
Ville et commerce, ça fait bon ménage. L'histoire nous le montre. Comment se fait-il que ce qui est le lieu, j'allais dire, le lieu sacré pour justement faire du commerce et donc a priori faire de l'échange, eh bien, il ne soit pas adapté à l'échange précisément. Il y a quelque chose que... Vous êtes sûr que c'est lié vraiment à l'objet centre commercial, mall commercial ? C'est pas lié à autre chose qui serait, je ne sais pas moi, une dérive de la société vers de plus en plus d'individualisme et qui ne serait pas forcément lié à l'objet lui-même ?
L'objet lui-même, il satisfait cette demande-là. C'est-à-dire qu'effectivement, j'essaie de repérer 5 dispositifs architecturaux urbanistiques pour dire que par leur démesure même, ils vont à l'encontre de ce qui faisait ville, tout simplement. Donc c'est pour ça que ce sont des désastres urbains. Maintenant que certaines personnes y trouvent leur compte et qu'il y a des gens qui adorent consommer, Annie Ernaux a fait un très très beau petit livre, un journal comme ça sur le Auchan de Pontoise où elle habite, où elle montre qu'en fait, les gens, ils sont...
Regarde les lumières, mon amour.
Voilà, même s'ils ne consomment pas, ils sont pas mécontents d'y passer. Moi-même, j'ai fait une émission de radio sur les centres commerciaux, j'ai trouvé plein de jeunes qui déambulaient là parce que c'était un lieu de drague, un lieu de rencontre.
Au Brésil, c'est le cas. Au Brésil, c'est le cas. C'est un lieu vraiment de réunion.
Alors, au Brésil,
de
c'est autre chose. C'est parce que c'est un espace public privé, mais sécurisé. Donc là, on est dans le paradoxe total, si je puis dire. Mais une vraie ville devrait être sûre, sécure, c'est ce que dit Jean Jacobs dans son livre du reste de 1961. S'il y a des commerces, s'il y a des va-et-vient, il y a une certaine sécurité qui d'elle-même se constitue. Non, moi, je crois vraiment que vous avez raison sur cet aspect. L'individualisme, mais alors quelle est la poule et l'œuf, c'est toujours le même problème. L'individualisme... va vers cette demande-là. Et de l'autre côté, on a aussi une transformation des modes de vie qui, moi, m'inquiète beaucoup parce que le produit immobilier aujourd'hui dominant à l'échelle planétaire, c'est la gated community, l'enclave résidentielle sécurisée. On en construit en Chine, on en construit au Brésil, on en construit au Pérou, en Colombie, etc. Partout. Ça, pour moi, c'est quelque chose de grave parce que c'est une sorte d'île hyper fermée et protégée à l'intérieur de ce qui fait ville et qui interrompt justement la continuité du parcours urbain.
Gated communities, vous dites ?
À Berlin, des agences immobilières prennent en compte les attentes sécuritaires de leurs clients potentiels, directement de la voiture au salon. Ce n'est pas une utopie.
Vous accédez à votre appartement en voiture. Un transpondeur ouvre la porte de l'ascenseur et active votre autorisation d'accès. Vous entrez dans l'ascenseur avec votre voiture, les portes se ferment et l'ascenseur vous dépose à votre étage.
22 heures. On ferme les portes à 22 heures. Après cette heure, on ne laisse plus entrer aucune voiture pour assurer la tranquillité du site.
Ah, les gated communities, Thierry Paco, vous le dites, vous avez raison, c'est ces résidences fermées qu'on trouve un petit peu partout dans le monde maintenant, pas seulement, on les imagine tout de suite, bon là c'était à Berlin, on les imagine évidemment du côté des États-Unis, mais on les trouve aussi dans les pays du Sud, on en trouve en Inde, on en trouve au Brésil, on en trouve en Chine, on les trouve partout, et d'ailleurs c'est pas seulement pour des questions sécuritaires, aux États-Unis et là c'était le cas à Berlin, c'est essentiellement pour des questions de sécurité, c'est pas toujours le cas.
On en trouve en France.
Évidemment. Alors, évidemment.
Mais dans les zones touristiques, c'est étonnant. Quand on voit se développer des lieux. Alors, elles ne sont pas complètement fermées, mais très souvent, le lotissement est prévu avec une seule entrée. C'est-à-dire qu'il suffit de mettre une barrière, si ça, c'était nécessaire, avec une clé, une clé ou une carte pour faire ouvrir la barrière, et on a une gated community. On en a beaucoup. Le phénomène, effectivement, extrêmement inquiétant.
Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que quand on a entouré les villes historiquement de palissades en bois, ensuite de fortifications ou d'enceintes, c'était pour se protéger de l'ennemi extérieur. Et aujourd'hui, les villes ont des murs intérieurs. C'est ça qui est... Alors, c'est très symptomatique, c'est que du coup, ça ne fait plus urbanité. Ça n'est plus possible. On est dans une urbanité sélective. Je veux bien te recevoir toi, mais toi seulement, parce que tu montres patte blanche à l'entrée, mais pas les autres. Et puis évidemment, on ne voit même pas cette population invisible qui est celle des serviteurs. Le livreur de pizza, le jardinier qui arrose la pelouse, la femme de ménage, tous ces gens-là disparaissent. Quelques films et quelques romans, mais là, en écoutant le reportage sur Berlin, je me disais que la science-fiction est déjà dépassée par la réalité. Et donc il faudra qu'on invente d'autres récits pour montrer comment tout va se privatiser d'une telle manière qu'on n'aura plus même cette nécessité d'aller vers autrui. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier le numérique derrière ça, c'est-à-dire tout ce système de repli sur son écran, sur son iPhone, sur sa propre, j'allais dire, son propre petit monde, sans relation à l'autre. Et donc, du coup, ce qui, pour moi, peut être une relation
à l'autre... Ce que vous voulez dire, c'est que les gated community, ce n'est pas seulement des questions de sécurité, vous parlez de reconnaissance à l'autre. En gros, c'est aussi reconnaître, j'allais dire, quasiment la tribu à laquelle on appartient.
Alors, finalement... Pour répondre précisément à votre question, en Chine, par exemple, il n'y a pas de question d'insécurité urbaine, c'est un standing. J'habite dans une gated, qui soit des villas, soit un condominium en hauteur, c'est une notion de standing.
Ça vous permet de gagner. Voilà.
Je montre aux autres que j'habite là, et on sait que s'il habite là, c'est qu'il a un tel revenu, c'est qu'il fréquente tel monde.
Donc quand on habite dans ce genre de résidence, ce qu'on appelle en Chine, on gagne de la face.
Et c'est ça l'expression. Tout à fait ça. En Inde, que je connais bien, là c'est autre chose, il n'y a pas d'insécurité urbaine, du moins pour l'instant, malgré le fait que ce soit des mégalopoles. On va dans les gated community, du reste c'est l'argument choc de vente, des publicités, pour la qualité du cadre de vie. On a accès à un parc, à un jardin, avec des jets d'eau, avec une espèce de reconstitution d'une mini-nature un peu parc à thème, du reste. Et on a, à côté de ça, des immenses immeubles roses, verts. Enfin, on croirait vraiment qu'on pourrait...
Paradis terrestre.
Un paradis terrestre. C'est des sucreries, on pourrait les manger. Bon. Et puis, c'est assez étonnant, c'est que, alors, pour tour immédiat, se greffe comme ça un habitat irrégulier, fait de briques et de brocs, qu'on appelle un slum, et dans lequel réside le personnel de service, mais qui est tout à fait satisfait d'être à deux pas de son boulot et de vivre des miettes que les gens plus aisés leur donnent.
Thierry Pacaud, dans vos désastres urbains, vous mettez les gratte-ciels. Alors évidemment, tout le monde a en tête ce projet de tour triangle au cœur du parc des expositions de la Porte de Versailles, porté par la maire de Paris, retoqué par le Conseil de Paris. Donc c'est à la fois une surprise, mais aussi un camouflet pour Anne Hidalgo. Alors je ne vous demande pas si vous êtes pour ou contre, puisque pour vous, les gratte-ciels, précisément, c'est un désastre urbain. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous reprochez aux gratte-ciels ?
Alors, plein de choses. Le premier point, c'est que ce sont des bâtiments énergivores. Et tous les arguments des architectes que j'ai étudiés très en détail, avec du reste en allant à des sources comme Enertech, etc., démontrent qu'un gratte-ciel de l'ancienne génération consomme 1500 kWh par mètre carré par an. Un immeuble vertueux, un gratte-ciel vertueux, arrive à 600-700 et le Grenelle de l'environnement réclamait 50. Donc vous voyez, on est quand même loin de la grande qualité environnementale et énergétique de ces bâtiments. Du reste, on ne compte ça que pour le bâtiment qui existe, mais il est énergivore dans les matériaux qu'il utilise pour sa construction.
Alors très bien, attendez, très bien, plus énergivore. Et en même temps, je pourrais avoir un autre argument, je vais me faire le défenseur des gratte-ciels. L'avantage quand même que présentent ces gratte-ciels, ces grandes tours, c'est qu'elles permettent d'augmenter la densité et donc par là même de réduire, d'optimiser un certain nombre de coûts de gestion de la ville, ramassage des ordures, les transports, tout ça coûte moins cher. Ça, vous ne le comptez pas aussi dans votre bilan. D'ailleurs, il y a certains pays qui, justement, dans cet objectif de réduction des coûts, densifie davantage les villes. La Chine, par exemple, la Chine fait ça. C'est-à-dire qu'il y a des villes de taille moyenne qui se réduisent. On parlait mardi des shrinking cities, des villes qui se vident. Et comment tout ça se réorganise ? Eh bien, on densifie les espaces davantage parce qu'on optimise les coûts.
Et on optimise.
On est en période de crise, Thierry Pacaud.
Et on optimise le désastre qui va arriver dans 30 ans ou 40 ans. On a fait la même chose. Je donne un autre exemple pour vous montrer à quel point c'est la même logique technocratique. C'est qu'on a fait le périphérique à Paris. Et depuis plus de 20 ans, on essaie de voir comment on peut s'en débarrasser. Eh bien, pour moi, la tour triangle, si on l'a fait, dans 30 ans, ce sera la même question que le périphérique. Comment faire pour la démonter? Parce que c'est jamais calculé, ça. Les architectes ne nous disent pas, les promoteurs ne nous disent pas. Démonter un gratte-ciel, ça coûte tant. Mais c'est considérable. Donc du coup, les premiers gratte-ciels de la Défense étaient faits pour 20 ans. Ils sont toujours là. Ils sont réactualisés, rénovés, reformulés. Alors maintenant, il y a derrière ce que vous dites, il y a une autre question qui est celle du point de vue, que j'avais énoncé d'un mot un peu prétentieux, existentiel. C'est-à-dire que le gratte-ciel, c'est une habitation. Alors c'est la question que je me pose. Est-ce que ça fait habitation? Et ben, Gaston Bachelard explique très bien dans La Poétique de l'espace que les immeubles en hauteur ignore les drames d'univers, dit-il, dans une formulation magnifique. Ça veut dire qu'on n'a plus cette perception de la pluie, du vent, de la foudre, du soleil. On est confiné dans un univers à air conditionné et on a comme seul espèce de caricature de la rue l'ascenseur, c'est-à-dire une impasse en hauteur.
Jean-Pierre Augustin, vous êtes aussi sur la même position. En quelques mots, avant qu'on retrouve notre dernière invitée, Maria Grava.
Oui, la question même au-delà des gratte-ciels, la question quand même qui est le fil directeur de beaucoup de restaurations urbaines en France, c'est la densification de la ville. Donc on densifie. Alors on densifie plus les grands ensembles, les bars et les tours, c'est terminé. On densifie d'une autre manière. Et je suis inquiet. Donc j'ai quelques exemples de villes, Bordeaux en l'occurrence, là qui veut augmenter la population de 100 000 habitants. Je parle de la ville centre dans les 10 ans qui viennent. Et on voit se construire donc. Ce ne sont pas des gratte-ciels au sens strict, mais ce sont quand même des immeubles, alors qui ont des formes extrêmement différentes par rapport aux formes simples des barres et des tours, mais qui posent des problèmes. Qu'est-ce qui va arriver dans 15 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans? La question de Thierry est tout à fait pertinente.
Allez, messieurs Thierry Paco, Jean-Pierre Augustin, on parle de cette question de la muséification des villes.
À Venise, les rois, ce sont les touristes. Il en vient 25 millions chaque année. Ville-musée entièrement dévouée au tourisme, elle ne compte plus que 50 000 habitants. C'est trois fois moins qu'il y a 30 ans.
Kiva est une des rares cités à avoir gardé son caractère distinctif et son originalité. Et nous pouvons encore voir les intentions des architectes d'autrefois. La ville entière est un musée à ciel ouvert. Itchan Kala compte 3019 habitants et chacun d'entre eux fait revivre ces temps anciens où la cité était en construction.
Et oui, Venise bien sûr en Italie, mais aussi par exemple Riva en Ouzbékistan. Voilà deux exemples de villes-musées. Bonjour Maria Gravary-Barbas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, professeur de géographie physique humaine, économique et régionale à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà qui est dit. De quoi parle-t-on quand on parle de muséification? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord plusieurs formes, plusieurs degrés de muséification? Et puis surtout, la question que je voudrais vous poser, qui viendra peut-être après, c'est est-ce qu'il s'agit d'un phénomène global qu'on trouve partout, aussi bien dans les pays occidentaux que dans les pays, disons, émergents ou émergés déjà, hein, Maria Gravary-Barbas?
Oui, effectivement. Je pense qu'il faut d'abord expliquer ce qu'on attend par muséification, parce que si on prend les termes à la lettre, on pourrait imaginer que des composantes urbaines, des monuments, des bâtiments, des quartiers, des sites sont en quelque sorte mis en vitrine et ne servent plus qu'à illustrer ce qu'ils ont été dans le temps. Christophe Pomian faisait un parallèle tout à fait intéressant à mobiliser ici avec l'outil agricole que, une fois mis dans une vitrine d'un musée, ne sert plus à faire le travail qu'il faisait auparavant, il ne sert plus qu'à illustrer le rôle qu'il jouait dans un passé. Donc on peut imaginer que quand on parle de muséification urbaine, nous parlons effectivement du fait que ces composantes urbaines changent de statut et deviennent en quelque sorte les témoins matériels de l'homme et de l'environnement, mais un témoin matériel d'une réalité qui n'existe plus. Hein, quelque part, il y a un arrachement à la réalité.
Plusieurs formes ou pas de muséification, Maria Gravary-Barbas? Parce qu'on plusieurs formes de muséification, on ne peut pas comparer par exemple Pompéi, Venise et Paris.
Absolument. Et déjà, peut-on parler des muséifications dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a certes certains exemples des villes-musées, littéralement des villes-musées, ou des villages-musées, où dans un territoire donné, ont été concentrés des bâtiments qui aujourd'hui ne servent qu'à montrer réellement des modes de vie qui aujourd'hui n'existent plus. Quand nous parlons, nous, des muséifications dans nos villes, nous parlons des réalités qui sont bien entendu beaucoup plus nuancées. Beaucoup plus nuancés et qui dénotent des changements fonctionnels, bien entendu, mais qui peuvent difficilement établir ces véritables rapports avec la notion du musée. Mais il y a tout un ensemble, effectivement, de proximités qui sont établies. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, nos villes sont de plus en plus anticipées, en quelque sorte. Hein. Il y a une signalétique urbaine qui, quelque part, rappelle les cartels des musées, qui attribue un sens aux différentes composantes urbaines, alors qu'a priori, dans une ville, les choses sont ou doivent être plus ouvertes. Il y a de plus en plus d'applications, par exemple, numériques, qui permettent aujourd'hui de visiter la ville, selon un storytelling précis, selon un scénario précis. Et tout ceci n'est pas sans rappeler...
Oui, mais en même temps, ça ne modifie pas véritablement le physique de la ville.
On peut dire que cette musification se fait lorsqu'il y a eu déjà une transformation urbaine conséquente. Dans quel sens? Dans le sens en général des villes qui sont passées par un cycle de dépréciation et qui ont été rénovées récemment, qui ont été donc le patrimoine donc a été rénové et parfois certains diraient un peu trop rénové. Donc cette musification intervient lorsque les bâtis a été retrouvé, lorsque le patrimoine a été soigné et lorsque au moins la matérialité des villes aujourd'hui, le patrimoine matériel de ces villes aujourd'hui est réellement pris en charge. Mmh. Ce qui bien sûr, quelque part, encourage l'arrivée de nouvelles fonctions. Donc cette muséification aujourd'hui correspond davantage à une refonctionnalisation des villes, à un changement des fonctions des villes qui laissent désormais plus la place à des activités ludiques, touristiques, commerciales, récréationnelles, de façon plus générale.
Cette question de la musification, puis je passe la parole à nos deux invités ici en plateau, vous avez l'impression que c'est un phénomène relativement récent, ou finalement ça existe depuis toujours? Est-ce qu'on a quand même remarqué une forme d'inflation quand même du phénomène ces dernières années? Enfin, comment...
Oui. On a sans doute remarqué une inflation du phénomène, et je pense qu'on peut comprendre pourquoi. On peut l'expliquer d'une part par cette espèce de concurrence dans laquelle s'émettent les villes aujourd'hui. Et on sait aujourd'hui que le patrimoine est un atout et vraiment quelque chose que les villes cherchent à activer pour pouvoir gagner quelques places dans ce marché international, quel qu'il soit, touristique, mais pas uniquement. Mais elle a gagné également en importance parce que aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs globaux contribuent parfois, malgré eux, à produire ces villes muséalisées. Il y a eu un article cet été qui a fait beaucoup de bruit, qui a été publié dans la revue Domus et qui parle d'urbanicide pour désigner la situation dans laquelle se trouvent les villes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO.
En référence avec l'urbicide qui concerne en gros les villes martyrs. On avait parlé d'urbicide à l'époque.
Absolument.
Pour Sarajevo, c'était l'ancien maire de Belgrade qui avait parlé d'urbicide à propos de Sarajevo.
Tout à fait. Mais qui dénote effectivement le fait qu'il y a actuellement tout un ensemble des grands documents fondateurs, des conventions internationales, la Convention sur le patrimoine mondial, mais tout un ensemble aussi d'autres chartes, d'autres acteurs qui œuvrent de façon donc globale actuellement. À côté de cela, il faut également parler d'une demande qui est internationale et qui quelque part contribue à la production de ces paysages urbains muséifiés. On peut évoquer les élites transnationales et on peut aussi évoquer le tourisme international.
Ça vous inquiète, donc, Thierry Paco, Jean-Pierre Augustin, justement, cette muséification, effectivement, en gros, un peu partout, et c'est une compétition aussi dans ce domaine-là, Paris, Berlin, Amsterdam, en Europe, tout le monde, au fond, muséifie un petit peu sa ville pour y accueillir les touristes. Ça vous inquiète, vous, Thierry Paco?
Ça m'inquiète, évidemment, mais je trouve que le mot n'est pas bon, parce que on transformerait des villes en musées, ça m'inquiéterait moins. Parce que j'ai une certaine idée du musée. Mais on le transforme en un
centre commercial.
Un centre commercial. En fait, on est consommateur de tourisme. Et c'est pour ça que j'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Le voyage contre le tourisme » où j'essaie d'expliquer précisément que l'essentiel, c'est le temps et l'espace de l'autre. Et donc, le touriste, sa motivation, elle est consommatoire. Il vient au pied de la Tour Eiffel, il se fait photographier immédiatement en train de la... Et puis, hop, ça part sur ses réseaux, sur sa famille. Donc, on montre qu'on a été quelque part. Mais en fait, on ignorera tout de ce qui fait cette relation fondamentale à un territoire qui est cette temporalité propre à ce territoire.
Jean-Pierre Augustin, oui, le mot de la fin, en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission.
C'est un changement en fonction des villes, quoi. La ville d'hier, la ville industrielle, c'était fait pour travailler. Bon, la ville post-industrielle, elle est faite pour quoi ? Pour voir, pour flâner, pour regarder. On a un changement profond qui pose des questions, évidemment, qui sont extrêmement complexes à résoudre.
Eh ben, on vous réinvitera pour en parler. De toute façon, la ville, ça vit, ça meurt, ça renaît. Voilà, hein. On pourra en reparler. Merci beaucoup, messieurs Jean-Pierre Augustin, Thierry merci. Paco. Je rappelle Thierry Paco, ça sera pour février. Désastre urbain, ça sera à la découverte. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Également, un grand merci à notre réalisateur Charles Le Gargasson et notre technicien Dofar Guéride qui était ce matin à la technique sous l'œil attentif de Joël ce matin. Merci beaucoup à vous tous.